Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la Dismoudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. La Dismoudre, c'est une création unique et éphémère, le temps d'une émission un petit peu particulière où nous allons parler de politique culturelle à la fois dans du grain à moudre et dans la dispute. À partir de 19h, Arnaud Laporte s'intéressera au spectacle vivant en compagnie de Nathalie Hennick, Fabienne Pascaud, Michel Aurier et Arnaud Meunier. Et dans la partie grain, jusqu'à 19h, donc nous avons choisi de réfléchir au levier de la politique culturelle et de le faire à travers un de ses vecteurs, la télévision. La télé qui est à la fois une fenêtre unique sur la diversité de l'offre culturelle, cinéma, littérature, théâtre, tout ce qui relève de la production culturelle est susceptible d'être fréquenté sur le petit écran. Mais la télé, c'est aussi un condensé des modes d'intervention de la puissance publique en matière culturelle. On y retrouve les enjeux de pouvoir, avec la question, par exemple, de la nomination des patrons de l'audiovisuel public, des enjeux économiques, dans la mesure où la télévision finance directement et indirectement d'autres secteurs de la création. Quant à la définition des missions de la télé-service public, elle s'inscrit dans le sempiternel débat culture pour tous ou culture pour chacun. Alors la télé est-elle le miroir grossissant de la politique culturelle ? C'est le thème de notre discussion en compagnie de trois des membres de notre club des idées. Aude Lancelin, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste pour Le 1 notamment, là-bas si j'y suis, qui est de la télé en dehors de la télé. Brice Couturier, bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Le tour du monde des idées sur France Culture du lundi au vendredi, c'est à 11h53. On vous voit aussi régulièrement sur la chaîne culturelle Arte dans l'émission.
Ce soir, en tous les cas, mais pas si régulièrement que ça, pas autant que je le voudrais.
Oui, bah écoutez, c'est déjà bien d'être invité. Hein. Je ne sais pas, par exemple, si Sylvain Bourmeau, lui, est invité à 28 minutes. Bonsoir Sylvain.
Ah non, je ne l'ai jamais été, Hervé, non.
Bon, vous voyez, ce sera peut-être l'occasion ce soir de lancer un appel. La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, c'est chaque samedi à 12h45 sur France Culture et bientôt le lancement d'un nouveau média à OC. Et puis, pour nous accompagner, elle sera dans la deuxième partie de l'émission avec Arnaud Laporte. Elle est déjà avec nous à partir de 18h20, c'est Fabienne Pascaud, bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Vous êtes journaliste, vous dirigez la rédaction de Télérama et vous êtes une des habituées de la dispute. C'est d'ailleurs à vous que je voulais poser la première question à propos de Télérama, justement. Est-ce que Télérama, c'est toujours un magazine que lisent surtout des gens qui n'ont pas la télévision? C'est en tout cas comme ça qu'on présentait l'hebdomadaire il y a quelques années.
Et quant à ceux qui avaient la télévision, on disait qu'ils ne l'aimaient pas. Donc, vous regardez la télévision aujourd'hui, de toute façon, c'est un petit peu compliqué parce que les gens ne la regardent plus de la même façon qu'autrefois, plus de manière linéaire, mais au contraire délinéarisée. Donc, ça pose plein de problèmes, regarder la télévision aujourd'hui. Mais c'est quand même, la télévision, ça reste idéalement le meilleur moyen de raconter, de voir, de comprendre et de décrypter le monde.
Et pour autant, il me semble que c'est quand même un outil qui est plutôt méprisé par le milieu intellectuel et par le milieu culturel. Est-ce que d'abord vous partagez les uns et les autres cette impression? Et si oui, comment est-ce que vous l'expliqueriez, Sylvain Bourmeau?
C'est un média qui a longtemps été détesté par les intellectuels, mais je pense que ça fait belle lurette que c'est terminé, parce que la télévision a montré depuis très longtemps, même si elle le montre peu, qu'elle peut être un média très exigeant et très haut de gamme. Ce que un certain nombre de chercheurs ont compris plus récemment, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, et je pense notamment aux travaux de Bernard Lahire sur le sujet, c'est que la relation des téléspectateurs à la télévision était un peu complexe et parfois même tordu. C'est-à-dire que beaucoup de gens, en fait, adorent détester regarder la télévision. Et le succès d'émissions comme celle d'Ardisson, qui donnait le cas d'école du travail de Lahire en l'occurrence, mais qui vaudrait aujourd'hui pour une émission comme celle de Ruquier, mais il y en a beaucoup d'autres à la télévision, fonctionne sur ce drôle de ressort. Et ce drôle de ressort s'est trouvé considérablement amplifié de mon point de vue avec la manière dont les réseaux sociaux répercutent des extraits de télévision. Non seulement les réseaux sociaux, mais d'autres médias qui font une sorte de parasitisme assez bizarre, qui viennent prendre des morceaux de vidéos de ce type d'émission qu'on adore détester, regarder, et qui génèrent énormément d'audience et en ont fait du carburant à modèle économique de gratuité sur le net. Donc là, on a des relations assez complexes entre télévision, presse, site internet, dans quelque chose personnellement je trouve assez tordu, c'est-à-dire que adorer, détester, regarder quelque chose, ça pose problème. Il n'y a pas que ça à la télé, hein, mais il y a beaucoup de programmes de ce type.
Et dans cette complexité, on pourrait peut-être ajouter le monde de la culture et les relations du monde de la culture, justement, avec cet outil qui est un outil de diffusion d'une culture populaire. Pour ce qui est de la culture un peu plus de niche, disons, Aude Lancelin, on voit que c'est parfois un petit peu plus compliqué parce que ça suppose à la fois de répondre à des exigences qui sont des exigences d'audience et de qualité qui sont parfois pas toujours compatibles, en tout cas.
Qui semble être devenu difficile, en tout cas, à assumer par la télévision publique telle qu'elle existe aujourd'hui. Juste, je rebondis sur ce que disait Sylvain à l'instant, sur la question que vous lui posiez. Je pense qu'aujourd'hui, il y a toute une génération d'intellectuels qui a écrit contre la télévision. Je pense à Pierre Bourdieu, je pense à Gilles Deleuze aussi, qui a parlé de la domestication de l'intellectuel par la télévision. Mais en fait, maintenant, c'est plutôt la télévision, malheureusement, qui déteste les intellectuels. Parce que on voit que les émissions culturelles sont reléguées à des horaires quand même assez indignes. On voit que les programmes exigeants sont relégués sur les chaînes périphériques au sein de France Télévisions.
Vous avez le souvenir, par exemple, de Lancelin, d'une époque où la télé et la télé publique, par exemple, donnaient une place plus visible aux émissions culturelles ?
Ben oui, vous aussi Hervé, forcément.
Non, je ne sais pas.
Mais si, forcément, parce que déjà, les Happy Few se moquaient de Bernard Pivot comme s'il était un marchand de lessive, mais et certains écrivains comme Philippe Murray ont moqué sa bonasserie postillonnante et sa jovialité face aux écrivains, mais enfin quand même. Quand on voit la liste des écrivains qu'il a reçus, la liste extrêmement prestigieuse des écrivains qu'il a reçus en prime time. Maintenant, non seulement les émissions de type Frédéric Taddeï ont disparu, mais même celles qui sont censées remplacer l'offre culturelle, Delphine Ernotte met souvent en avant des émissions comme On n'est pas couché, C'est à vous, Stupéfiant, qui sont quand même pas...
Qui sont pas dans le même registre, quand même.
Oui, mais c'est ça qu'elle met en avant comme programme culturel. Et même des programmes comme ça, où dans Stupéfiant, où on voit Alain Delon, où on voit Alain Finkielkraut, hein, là, on n'est pas dans le Happy Few, voilà, eh bien, démarrent à 11h30. C'est totalement fou, quand même, ce qui s'est passé en quelques années.
Fabienne Pascaud.
Je crois que le drame de notre télévision publique est d'être soumise à quatre tutelles. Bercy, le CSA, le ministère de la Culture et le pouvoir direct du président de la République. Donc, cette relation très compliquée avec le pouvoir qui demande à la télévision d'être aussi populaire, de ne pas perdre de l'argent, comment voulez-vous, Aude, qu'elle soit populaire en mettant des émissions très pointues à 20h30. C'est totalement schizophrénique. Qu'on laisse un peu la télévision travailler en paix et on verra ce qu'elle donne. Mais là, on voit ce déchaînement actuellement contre France Télévisions, les déclarations fracassantes d'Emmanuel Macron parlant de honte et tout ça. La télévision, il faut que le pouvoir la désinvestisse pour qu'elle soit un peu en paix. La BBC est beaucoup plus tranquille en Angleterre. Ou alors que nos dirigeants se préoccupent un peu du net, de tout ce qui se passe sur le numérique. Là aussi, ils pourraient intervenir.
Et c'est d'ailleurs ce que reproche Emmanuel Macron, hein, aux dirigeants de l'audiovisuel public en général, de ne pas être suffisamment présents sur ces supports-là pour savoir ce qu'il a véritablement dit au début. De la commission des affaires culturelles. Il faut d'ailleurs lire un article de Télérama qui revient précisément sur les propos qui ont été rapportés. Tout le monde veut réagir, mais on n'a pas encore entendu Brice Couturier.
Et moi, j'aurais insisté sur le fait que théoriquement, l'audiovisuel public a trois missions, ce qu'on appelait le triptyque à peu près à son origine. Il s'agissait d'informer, de cultiver et de distraire.
C'est toujours le cas. Hein.
C'est un peu le problème parce que, honnêtement, bon, informer, c'est ce que fait effectivement l'audiovisuel public. Il le fait d'ailleurs à égalité avec d'autres chaînes, d'autres médias, radio ou télévision, avec lesquels nous sommes en concurrence. Et cultiver, est-ce que vraiment, à part France Culture et quelques rares émissions sur la télévision et public, en effet, cette mission est réellement rempli par l'audiovisuel public. J'en doute. Quant à distraire, aujourd'hui que les industries de l'information sont devenues des industries à part entière faisant des profits colossaux, est-ce vraiment le rôle de l'audiovisuel public que de distraire? Est-ce qu'il est nécessaire de
c'est
toucher
divertir,
l'argent
hein.
Oui, enfin, divertir, si vous voulez.
C'est une nuance.
Divertir ou distraire, mais c'est à peu près la même chose. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de payer une redevance pour être distrait?
Oui.
Ça se pose, la question se pose. Je pense qu'on ferait mieux effectivement de prendre en charge ces questions, d'informer de manière objective, pluraliste, qui est notre mission, et dans toute indépendance, contrairement à d'autres médias qui sont soumis au pouvoir économique ou politique, et la mission de cultiver, honnêtement, on la cherche.
Mais Brice Couturier,
sinon l'été à 2h du matin.
Mais Brice Couturier, est-ce que le fait de divertir, est-ce que le divertissement, ça ne participe pas aussi de la culture, et donc, d'une certaine manière, de la politique culturelle?
Mais y a-t-il besoin, est-il nécessaire que l'État se mêle de nos distractions? Le privé fait ça très bien.
Sylvain Bourmeau.
Alors, moi, je suis d'accord que la distinction entre cultiver et divertir, elle n'a pas toujours un sens très, très précis. On peut effectivement cultiver en divertissant et vice-versa.
Comme le grand échiquier autrefois,
mais,
par exemple.
Je voudrais rebondir sur le parallèle que Fabienne Pascaud faisait avec la BBC. Parce que c'est effectivement un modèle à bien des égards, la BBC. Sauf qu'il y a de vraies différences. Et elles ne datent pas d'aujourd'hui. Elles ne datent pas de la formidable stratégie numérique, par exemple, de la BBC. Elles sont beaucoup plus anciennes. On peut dire, pour reprendre, puisque c'est l'une des thématiques de l'émission ce soir, que finalement, la politique éditoriale de la BBC a été le plus puissant levier de politique culturelle en Grande-Bretagne. Mais il ne s'agit pas d'une politique culturelle définie par un ministère de la Culture, quasi inexistant historiquement en Grande-Bretagne, mais par une grande institution publique. La BBC et la télévision outre-Manche a été utilisée comme le levier majeur de politique culturelle qu'il pourrait être et qu'il n'a jamais été dans la tradition française, parce que le ministère de la Culture...
Au tout début, très longtemps.
Parce que le ministère de la Culture préfère mener une politique, n'a jamais compris au fond ce que ça voulait dire avoir à la tutelle de la télévision. Parce qu'en France, il y a tout de suite un soupçon, dès qu'un ministre dit « je veux demander à la télévision de prendre en charge une partie de la politique culturelle », tout de suite des boucliers se lèvent, parce que tout le monde a peur d'une reprise en main d'un contrôle politique sur l'information, parce qu'on paye très cher ce qui s'est passé dans les années 60 avec l'ORTF, qui n'était pas un bon modèle. La BBC n'a jamais connu ça. La BBC a toujours eu une tradition d'indépendance forte de l'information, et elle a réussi à faire des émissions de télévision de véritables formes culturelles, d'ailleurs plus fortes que le cinéma, à bien des égards outre-Manche. Mais l'une des clés de ce modèle, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de publicité sur les chaînes de télévision de la BBC.
Et que la redevance est plus importante au Royaume-Uni
aussi,
qu'en France.
Mais quand on parle d'audiovisuel public en France, on met ensemble des réalités qui n'ont rien à voir. Écoutez la différence entre Radio France et France Télévisions. Elles s'entendent tout de suite et elle est liée à la publicité. Le fait de dépendre à ce point de la publicité, c'est la situation de France Télévisions depuis longtemps, conduit à un certain type de production. C'est la raison pour laquelle, c'est la seule fois dans ma vie, j'avais eu l'occasion d'écrire un papier en défense de la mesure prise à l'époque par Nicolas Sarkozy de suppression d'une partie de la publicité sur les chaînes du service public. Parce que je pense que la seule solution, si on veut faire de la télévision publique un vrai levier de politique culturelle, ce serait de prendre le modèle de la BBC, c'est-à-dire le modèle économique de la BBC.
Est-ce que c'est justement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire faire de la télévision un levier de la politique culturelle? Est-ce que ça n'est pas déjà un peu le cas quand même, Aude Lancelin?
Actuellement. Un levier des politiques culturelles, non. Non, malheureusement, dans le prolongement de ce que disait Sylvain, c'est qu'il n'y a plus de service public de l'information et plus véritablement de politique culturelle à France Télévisions. Vraiment, France Télévisions, c'est calé sur les mœurs du
privé. Il y a de l'information quand même.
C'est calé sur les mœurs du privé. On trouve les, il n'y a pas de culture publique, la culture publique est en train de se désagréger. On trouve les mêmes.
Peut-être sur France 2, mais il y a aussi France 3, il y a France 5, il y a Arte, qui est aussi financé par la redevance audiovisuelle, en Allemagne et en France d'ailleurs.
Non, mais il reste possible de produire des programmes très exigeants.
Les mêmes journalistes vont de la Maison Ronde à RMC ou au groupe Lagardère, on trouve les mêmes types de managers. Delphine Ernotte vient du monde des télécoms, vient d'Orange. comme le disait un des animateurs récemment parti, une des stars de sa chaîne récemment partie, elle n'a pas de compétences sur le fond, sur le métier même de l'audiovisuel. Et donc, fatalement, elle est soumise à des logiques budgétaires qu'elle-même a acceptées, mais on lui en remet toujours d'ailleurs davantage, puisque maintenant elle se retrouve face au pouvoir d'Emmanuel Macron, qui lui demande encore plus de coupes, encore plus de restrictions budgétaires, ce qu'elle avait déjà entamé elle-même hein, de son propre chef sous François Hollande, avec cette espèce de fusion de France Info et de France Télé, qui n'était pas guidée par un projet éditorial, qui était guidée par des coupes budgétaires, il faut quand même le dire. Et donc, non, nous manquons vraiment d'une politique publique culturelle. Et pour en venir à la première réflexion de Fabienne Pascaud, quand Emmanuel Macron dit que le service, que l'audiovisuel public est une honte, moi en fait, je ne sais
pas. Du coup, vous êtes assez d'accord.
Alors, ça, non, voilà, c'est là où j'en venais. Je pourrais dire.
Sylvain Bourbon a dit qu'il avait soutenu Nicolas Sarkozy, oui. Donc vous pouvez être d'accord avec Emmanuel Macron.
Je pourrais dire la même chose, simplement j'ai peur que dans nos bouches, ça n'est pas le même sens, voyez-vous. Parce que, non, mais très, il faut être très factuel et très honnête. Personne ne peut dire actuellement ce qu'a Emmanuel Macron dans la tête à cet égard. C'est indéchiffrable, cette phrase. Une honte. On ne sait pas ce que ça veut dire. Si l'objectif à terme de son quinquennat, c'est par exemple, imaginons le pire, une privatisation intégrale de France Télévisions, là, je pourrais dire que je n'étais pas d'accord avec lui.
Il y a cette phrase, mais il y en a d'autres. Il y a, par exemple, on ne se pose plus la question de savoir les contenus que l'on veut produire pour apporter la culture à ceux qui en sont le plus éloignés. Sur ce constat-là, est-ce que c'est un constat que vous pouvez partager, par exemple, vous, Fabienne Pascaud?
Il remet en question un petit peu les décrets TASCA qui avaient prévu de faire travailler des producteurs français avec une certaine somme qui devait leur être allouée, une certaine. Et visiblement, Emmanuel Macron s'en prend à tous ces producteurs dont il dit qu'ils sont un petit peu devenus des rentiers de la télévision. Mais,
et aussi à des contenus qui n'atteignent pas la cible qu'ils devraient atteindre, c'est-à-dire ceux qui sont le plus éloignés du monde de la culture.
Je ne sais pas si finalement le rôle de la télévision, ça n'est que la culture. Votre président, Mathieu Gallet, dans un entretien du Monde hier, a dit que la télévision, il lui donnait d'ailleurs une quatrième mission, devait être un lien social, après éduquer, divertir et cultiver. Et je pense, on a pu voir, par exemple, à l'occasion de la mort de Johnny Hallyday, la télévision, elle a trouvé mais son rôle énorme, ou à l'occasion de certains matchs, moi je suis pas très sportive donc je regarde jamais ça, mais Johnny, on était tous scotchés devant nos écrans.
Presque tous. Pour ceux qui ont écouté l'émission de la semaine dernière, ils comprendront pourquoi je dis ça.
En tout cas, moi, j'ai regardé. Pas tout, mais j'ai regardé. Et c'est vrai qu'il y avait l'impression d'une communauté, d'un partage, en faisant les critiques qu'on peut, à juste titre, faire à ce sujet. Mais là, je trouve que c'est aussi une vocation de la télévision. Françoise Nyssen, par exemple, elle dit toujours qu'elle veut faire une politique culturelle de proximité, maintenant. Et ben, je pense que la télévision peut faire un lien de proximité très fort. Et c'est là qu'elle a peut-être une carte à jouer encore.
Mais alors, justement, restons sur cet exemple de Johnny Hallyday. Fabienne Pascaud, Johnny Hallyday, c'était de la culture populaire. La télé, ça sert
récupéré
aussi...
Récupéré par les intellectuels, à un moment. Hein.
Oui, mais bon, ils vont vite s'en détacher, vous verrez. À mon avis, ça ne durera pas très longtemps. C'était de la culture populaire. Sur un média, donc la télé, qui est un média populaire, qui sert aussi à ça, est-ce qu'on peut dire, du coup, que sur la télé publique, il est tout à fait légitime de voir peut-être majoritairement cette culture populaire-là, puisque c'est celle finalement qui s'adresse au plus grand nombre.
Écoutez, moi ça ne me gêne pas s'il y a les deux. C'est ce que disait Laïr, la culture légitime et la culture illégitime. C'est bien de tout mélanger. Et si montrer Johnny Hallyday aide... ou amène à d'autres, ou par exemple des compositeurs plus exigeants avec qui Johnny Hallyday a travaillé, si ça amène à une curiosité, si on passe par le populaire pour aller plus loin, eh ben tant mieux. Alexandre Dumas a donné envie de d'aimer l'histoire. Si ça passe par des chemins comme ça, moi je suis pour.
Grèce Couturier.
Écoutez, il est clair que le président de la République a pris acte du fait qu'il y a une crise de l'audiovisuel public, en partie de la télévision. Nous, c'est beaucoup moins le cas, puisque nous, on est les numéro un sur le podcast et qu'on fait un type d'émission, surtout nous à France Culture, mais pas seulement, dans l'ensemble de Radio France. On produit un type de programme qui peut être consommé d'autre manière que de manière linéaire. Mais France Télévisions est manifestement face à une crise grave, une crise d'identité. Elle ne sait plus où elle va. Elle fait les mêmes types de programmes que les chaînes commerciales, alors que même elle bénéficie de la redevance qui est difficilement compréhensible. Et donc on est face à deux modèles possibles. Le président de la République a demandé aux députés et aux sénateurs de prendre en charge la réforme et de lui faire des propositions. Si j'ai bien compris, il y a deux pôles. Vous avez un pôle Sénat avec les sénateurs Gattolin et Leleu qui ont fait un rapport il y a déjà quelques mois qui préconise exactement ce que propose Sylvain Brumeau, c'est-à-dire un rapprochement et même les quatre grands, parce qu'il ne faut pas oublier, on part toujours de France Télévisions et de Radio France, mais il y a aussi France Média Monde et l'INA qui, dans la conjoncture actuelle, gère l'ensemble des programmes déjà produits et qui a un rôle face à la révolution numérique évidemment absolument central. Donc l'idée du Sénat, c'est de rapprocher ces sociétés de manière à créer toutes les synergies possibles au sein d'un groupe unique, d'une espèce de RTF à l'ancienne. Et si j'ai bien compris, à l'Assemblée nationale, c'est plutôt Frédéric Dumas, qui est la vice-présidente de la commission de la culture, qui gère ce dossier de la réforme de l'audiovisuel et qui, elle, plutôt, parce qu'elle pense que le modèle de la start-up, plus souple et plus agile, comme elle dit, et mieux adapté justement à la révolution numérique, qui plaide plutôt pour ce type de synergie qu'on vient de connaître, puisqu'après tout, France Info, à la fois radio, télévision et site internet extraordinairement fréquenté, est un succès. Voir s'il n'y a pas d'autres synergies possibles entre ces quatre sociétés qui composent l'audiovisuel public et qui aujourd'hui travaillent un petit peu chacun dans leur coin, sans tenir compte des défis qui sont ceux d'aujourd'hui, des technologies qui sont ceux d'aujourd'hui, et surtout du mode de consommation qui n'a rien à voir avec ce qu'était la télévision il y a 20 ans, quand on s'asseyait devant un programme et qu'on allait jusqu'au bout.
Et vrai, est-ce que tu aurais, pour ne pas trop s'éloigner de notre thématique de la politique culturelle,
bah, je crois qu'on est en plein dedans, justement.
Non, on est en plein dedans, mais je veux dire, quel serait, du coup, finalement, pour vous, et d'ailleurs la question s'adresse à vous quatre, une télévision publique qui mènerait une politique culturelle qui vous paraîtrait tout à fait acceptable et pertinente. Je vous entendais tout à l'heure dire que ça n'avait pas toujours été le cas, le fait que la télé publique maltraite un petit peu la culture. Est-ce que vous ne faites pas aussi référence à un âge d'or qui n'a peut-être pas jamais existé ? Moi, je me souviens, la télé, quand j'étais petit, c'était Maritier, Gilbert Carpentier.
Mais non, il y avait
c'était La Piste aux Étoiles, c'était pas non plus...
Je ne veux pas faire...
Mais attendez, juste un exemple.
À cause d'Ancelin, alors.
Hervé, ce soir ou jamais, en direct, tous les soirs, sous le quinquennat Sarkozy, avouez que c'était quand même un lieu de la parole intellectuelle, extrême, qui l'a ouverte à énormément de gens, d'ailleurs, de sensibilités extrêmement différentes. Où est-ce que cette chose-là est passée ? Où est le lieu aujourd'hui de la parole intellectuelle sur France Télévisions ? Je ne sais pas.
Mais... Chez Ruquier.
Voilà.
Je voudrais juste rectifier une chose parce que Brice Couturier a laissé entendre que j'étais favorable à une espèce de regroupement.
La BBC, c'est ça.
Oui,
la BBC, c'est une traduction unique pour toutes les chaînes.
Oui,
hein. Tu veux ça ?
Mais je n'ai pas dit que je voulais ça. J'ai dit que la chose importante pour moi n'était pas la question organisationnelle et je pense plutôt que effectivement la souplesse nécessite d'avoir des structures relativement petites. Mais qu'en revanche. Ce qui est important dans le système de la BBC et ce qu'on pourrait espérer comme ambition forte de la part du président de la République en matière de télévision, ce serait de remettre à plat véritablement le modèle économique. Il y a une chose qu'on n'a pas dite à propos du système britannique, c'est que une partie des recettes publicitaires des chaînes privées est reversée pour financer les chaînes publiques. Les chaînes de télévision, ce sont des concessions. Elles sont données à des groupes privés. Vous vous rappelez le mieux-disant culturel, toutes ces salades quand on a vendu TF1, quand on a privatisé ces chaînes. L'État est en position de force. Si des acteurs privés veulent récupérer des fréquences, veulent récupérer des chaînes, alors il faut mettre en place des règles, une régulation qui permet d'aller chercher de l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire dans les recettes publicitaires des chaînes privées pour financer l'audiovisuel public. Voilà qui serait courageux. Juste sur la culture, pour terminer, c'est pas vraiment un âge d'or. On parle toujours d'apostrophe, etc. Je voudrais prendre un autre exemple. C'est pas faux, d'ailleurs, mais je voudrais prendre un autre exemple.
1980... Oui, si la télé se limitait culturelle au grand échiquier à apostrophe, ça fait quand même pas beaucoup.
Oui, mais non, 1981. j'étais adolescent devant ma télévision, qu'est-ce que je regardais le dimanche matin à 11h?
Chorus. Le jour du Seigneur.
Chorus, 28 minutes de musique live. Vous voulez regarder la programmation que faisait à l'époque Antoine Decaune sur la deuxième chaîne, sur Antenne 2, à l'époque où il n'y en avait que trois? Il programmait Clash, groupe alors inconnu, il programmait...
Enfin, c'est les émissions religieuses, Sylvain, vous vous trompez un peu, non?
Non, ça c'est Télérama qui croit qu'il n'y a que les émissions religieuses à la télévision. Non, moi je savais trouver les autres canaux. En tous les cas, ce que je veux dire, c'est que entre 1981 et 1983-84, grosso modo, il s'est passé des choses aussi intéressantes à la télévision. Cinéma, pour prendre un autre domaine de la culture. Il y a là des choses qu'on n'a plus jamais revues. Cela dit, je voudrais juste nuancer une chose, c'est qu'il se trouve que j'ai fini, après des années, par réussir à convaincre France Télévisions de produire des films à la manière de des groupes, à la manière de la télévision des années 60, évidemment avec les moyens d'aujourd'hui, c'est-à-dire des caméras légères, numériques, parce qu'on a fait beaucoup de progrès. Et ça a été possible grâce au web et grâce à France 5. Je pense que cette série, Les Intellectuels du 21e siècle, elle a été diffusée cette année. Elle continue, donc il y a des interlocuteurs, il y a des gens qui ont envie de ça à France Télévisions. Donc moi je sens les choses un peu changer. Simplement, pour qu'elles changent véritablement, c'est le modèle économique qu'il faut changer du tout au tout.
Lancelin ?
Non, mais pour prendre juste un autre exemple très concret qui illustre le fait que il y a bel et bien un mouvement qui pousse la culture vers les marges, vers les bidonvilles de France Télévisions. Prenez Démo de minuit, qui passait déjà extrêmement tard. Hein. Bon, ben,
que vous regardiez régulièrement. Ah
ben, bien sûr, vous me connaissez. Et bien maintenant, je ne sais pas si vous le savez, mais Démo de minuit existe encore.
Sur le web.
N'est diffusé que sur le web sous forme de podcast. Est tourné avec des moyens quand même un peu misérables. Et en fait, si vous allez sur le site de France Télévisions, ce que très peu de gens font, tout le système, c'est un système extrêmement complexe que personne ne connaît, même la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, le reconnaît, Culturebox, vous ne vous y retrouvez jamais. Tout ça est épouvantablement mal structuré. Et effectivement, quand on voit ça, on se dit que France Télévisions n'est pas armée face aux nouveaux défis culturels et à tout ce qui se crée actuellement dans le paysage.
Fabienne Pascaud, sur la question du modèle économique qu'évoquait Sylvain Bourmeau, est-ce qu'il y a d'autres domaines de la culture qui pourraient inspirer la télévision sur les rapports justement entre l'offre privée et l'offre publique? S'agissant du théâtre, par exemple, qui est un domaine que vous connaissez bien, je crois, théâtre privé, théâtre public, est-ce que c'est un modèle qui pourrait être dupliqué d'une certaine manière à la télé en termes pour favoriser une offre qui soit la plus complète possible, disons?
Je vois pas comment ça pourrait être fait, ça. Mais pour des moyens économiques, il suffit d'augmenter la redevance. Hein. Moi, je pense que si la télévision avait plus de moyens, elle pourrait peut-être faire mieux. Alors certes, elle a déjà... quand on pense au budget, il est quand même de 3 milliards 6, si je ne m'abuse. C'est plus que la culture. Donc il faut... Mais y a
et la radio publique est la preuve qu'on peut faire des choses de qualité, je pense, avec une économie qui n'a rien à voir.
Oui, mais...
Des rémunérations qui n'ont rien à voir. Ce sont deux univers incroyablement différents.
Mais là où je vous trouve injuste, tous, c'est que si ces émissions ont été repoussées, je pense au mot de minuit, par exemple, maintenant sur le numérique, et c'était une bonne émission, mais c'est que personne ne les regarde. Il y a aussi une réalité qu'on ne peut pas négliger.
Personne, ça fait beaucoup, parfois, quand même.
Oui, mais c'est comme l'éducation artistique pour la culture. Il faut travailler en amont.
Si personne ne regarde ces émissions après 23h30, excusez-moi, mais qui va la regarder en direct? Qui peut faire ça?
Donc votre
qui peut se coucher à 2h du matin?
Votre télévision idéale en matière d'offres culturelles, ça serait quoi? Ça serait une télévision qui aurait une approche, alors ça, on ne peut jamais avoir une offre exhaustive, mais enfin, en tout cas la plus complète possible, quitte à renoncer à ce que certaines émissions soient un petit peu largement regardées. Brice Couturier, vous en pensez quoi?
Moi, ce que je pense, c'est que le divertissement ne devrait pas être la mission d'un audiovisuel public.
Laurent Ruquier, par exemple, n'a rien à faire
sur la
télé publique.
Mais non, bien sûr qu'il n'a rien à faire. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, finissent par partir vers le privé, parce qu'on y est mieux payé, tout simplement.
Mais alors, Nagui, sur France Inter, n'a rien à faire.
Non,
et les papous dans la tête, éventuellement, sur France Culture.
Je ne veux pas faire trop d'ennemis dans cette maison, on peut rencontrer des gens dans les
couloirs. Non, mais il faut aller jusqu'au bout de la logique.
Non, ce que je veux dire, c'est que précisément, les chaînes chaîne de l'audiovisuel public devrait être délivrée de la course à l'audimat, parce que c'est pas notre mission. Notre mission, c'est effectivement d'informer et de cultiver, et pas de distraire. Si on est dans la distraction, on est forcément en concurrence avec M6, TF1, et des gens avec lesquels nous n'avons rien à voir. Or, dans la logique qui est celle du marketing de programme, il est évident que nous devons, face à chacune de leurs émissions, opposer les nôtres. Enfin, je parle encore une fois de la télévision, pas de France Culture, par bonheur. Nous ne sommes pas en concurrence, nous, avec Europe 1, ni avec RTL, par bonheur. Mais non, oui.
Il y a des choses très bien pour par
ailleurs. Oui, il y a sûrement des choses très bien, mais enfin, nous, notre mission, c'est effectivement de cultiver, comme la mission de France Info, et d'informer. Et ça, nous savons le faire. Je pense que nous devrions être débarrassés des contraintes de la concurrence, que nous ne jouons pas sur le même terrain, et la question de la redevance va se poser très vite, car n'oublions pas que la redevance était indexée sur la taxe d'habitation et que 80% de la population, soudain, Emmanuel Macron l'a décidé, ne la paieront plus. Donc il est temps de reformuler un financement de l'audiovisuel public stable, sérieux. Il faut simplement que l'assiette de cet impôt soit plus large, de manière à ce que l'ensemble des foyers fiscaux le payent, puisqu'aujourd'hui on peut regarder la télévision sur Internet comme sur son portable et que de plus en plus de jeunes en particulier ne regardent pas la télévision, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le même mode de consommation que nous avions nous-mêmes et qu'ils ne la regardent pas en ligne, mais qu'ils la regardent quand ils ont en envie sur leur tablette ou sur leur smartphone. Par conséquent, il y a toutes ces modifications qui nous environnent, qui sont autant de défis que jusqu'à présent, je suis désolé, France Télévisions n'a pas réellement envisagé et n'a pas résolu. Alors que nous, à notre petite échelle, quand on regarde ce qu'a fait à Radio France, en particulier dans le domaine je pense qu'on est un peu plus, si vous voulez, on a un peu mieux répondu aux défis qui étaient les nôtres aujourd'hui que France Télévisions, d'où la crise à France Télévisions que nous n'avons pas ici.
Brice Couturier est en train de renégocier son contrat, hein, voilà. C'est pour ça qu'il y a autant de bien finalement de l'entreprise qui l'emploie.
Non, non, j'ai cherché à être embauché à France Télévisions, vous n'avez rien compris.
Moi, Fabienne Pascaud. Brice Couturier, quand je vous entends dire que la télévision ne doit pas divertir, ça me fait penser que vous passez à côté d'un des phénomènes culturels les plus intéressants qui sont actuellement dans le domaine de l'audiovisuel, ce sont les séries. Que vous ne devez pas regarder peut-être
si, beaucoup. Si, sur Netflix, comme tout le monde.
Mais non, il peut y en avoir, il pourrait y en avoir sur la télévision. Il y en a beaucoup sur la BBC qu'évoquait Sylvain Bourmeau tout à l'heure. Le divertissement, bien compris, ça amène à une des formes cinématographiques actuelles les plus inventives et les plus intéressantes. Ça va de tous les côtés. Il y a des séries très intellectuelles, très artistiques, très branchées, très France Culture.
Je ne regarde que ça, cher ami, mais je regarde sur Netflix. Parce que c'est pas le rôle de la télévision. Regarder. Quand j'ai envie de regarder deux épisodes de Strangers...
Vous avez les moyens de vous payer Netflix, mais, c'est 10 euros par mois. Bah, au moins, France Télé, c'est gratuit.
C'est quand même énorme ce que vous venez de dire, Brice, que les séries télévisées ne sont pas le rôle de la télévision. Je dois dire que...
C'est honteux.
De la télévision publique, si j'ai bien compris.
Oui, mais enfin, comme le disait justement Fabienne Pascaud, les séries ont été d'une richesse incroyable sur la télévision publique britannique dès les années 50, 60. Elles sont nées là, c'est une forme. Alors en France, elle a été méprisée longtemps parce qu'on a un cinéma qui est fort, mais c'est la situation inverse en Angleterre.
On nous a beaucoup parlé de Belphégor, vous parliez de la télé à l'ancienne. Ça,
J'ai pas envie de choisir entre télévision et cinéma, et je trouve cette distinction entre éduquer et divertir absurde, ça n'a aucun sens. Le problème n'est pas là. Je voudrais revenir sur la question de ce modèle, parce que tout le monde dit qu'il faut augmenter la redevance. Oui, peut-être, sans doute, mais je voudrais qu'on n'oublie pas l'idée d'aller récupérer par une taxe de l'argent sur les recettes publicitaires des chaînes privées. Et puis une dernière chose sur le rôle de l'audimat. Là, je suis d'accord avec Brice Couturier pour dire qu'il faut trouver des moyens pour que l'audimat n'ait pas le même impact sur les programmes à la télévision. Pourquoi il a un impact énorme, l'audimat? Pour une raison très simple, et pourquoi c'est différent de la radio? Vous savez, les audiences télé, les gens qui font des programmes et qui en sont responsables, ils ont les chiffres le lendemain matin. Et ils associent des chiffres précis à des programmes précis. Ils font un lien et donc ils se disent et ils s'installent des habitudes sur telle thématique, l'environnement, l'Internet, ça marche pas. Nous, à la radio, on a la chance d'avoir des audiences qui sont des moyennes, tous les deux mois, qui nous interdisent par principe de lier le contenu avec les audiences. Ça change tout.
absolument tout. On est véritablement dans une politique de l'offre. Or, je ne connais pas de politique culturelle qui ne soit pas une politique de l'offre. Dès lors qu'on veut se soucier de la demande, d'essayer de deviner ce que voudraient regarder les gens, ça n'a aucun sens. Ce qu'on peut avoir, ce sont des politiques de public, exactement comme dans les grandes institutions culturelles. C'est ça que doit faire Radio France, c'est ça que doit faire France Télévisions. Et pour ça, il faut desserrer l'étau de l'audimat.
Sachant que, cela dit, avec Internet et avec les podcasts, on peut de plus en plus avoir une appréciation fine des émissions qui sont écoutées ou qui sont téléchargées et celles qui le sont un petit peu moins. Donc on n'est pas totalement non plus à l'abri de cet aspect-là, même si ça n'aura pas évidemment l'ampleur que ça peut avoir dans les chaînes de télévision. Emmanuel Macron, est-ce qu'il est dans son rôle, et ce sera un peu la conclusion de cette émission, en intervenant à ce point sur ce que devrait être l'offre culturelle de la télévision publique? Est-ce qu'il n'y a pas un organisme qui serait a priori plus approprié pour dire s'il y a des choses qui ne vont pas en la matière, en l'occurrence le Conseil supérieur de l'audiovisuel? Aude Lancelin, Fabienne Pascaud.
On sait très bien que les présidents de la République ont toujours les mains dans cette affaire-là pour des raisons stratégiques d'opinion publique et évident. Disons que moi, là, pour le coup, François Hollande avait changé la procédure de nomination du PDG de France Télévisions, puisque c'était maintenant le CSA. Mais le problème, c'est que le CSA est nommé, le président du CSA est nommé par le président de la République. Donc c'était à la fois nouveau et hypocrite, on va dire. Le prochain combat politique, je pense, qu'il faudra mener, parce que il n'est pas sain, pour répondre franchement à votre question, que le président de la République, quel qu'il soit, se mêle directement de placer ses hommes ou ses femmes à la tête de France Télévisions, ce serait de faire acter ce choix par l'Assemblée nationale, par les représentants, par les élus du peuple, tout simplement. C'est une question suffisamment importante et grave pour être tranchée par l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que...
On va avoir quelqu'un de la majorité, obligatoirement. Un système très politisé.
Je vous rappelle qu'au moins, il y aura une forme de transparence, cette nomination, au moins. Et je vous rappelle que quand même si... effectivement, moins de gens regardent la télévision, et notamment moins de jeunes regardent la télévision que par le passé. Un Français sur deux a accès à un contenu de France Télévisions aujourd'hui, quotidiennement. Que ce soit un journal, un film, etc. Un sur deux, quand même. Donc, c'est un enjeu colossal.
Il y a la question du mode de désignation. Il y a aussi la question du profil de la personne qui doit être désignée. Est-ce qu'à la tête de l'audiovisuel public et des différentes chaînes, il faut plutôt des gens qui sont, disons, des gens issus de la création, de la production de contenu, ou plutôt des gens qui sont là pour gérer ces entreprises? Ou bien est-ce qu'il faut trouver peut-être un équilibre entre ceux qui produisent et ceux qui gèrent? Fabienne Pascaud.
Moi, je pense que pour plus de neutralité, il faut mieux un bon gestionnaire qui est capable et pas quelqu'un du monde de la production qui soit accusé de favoritisme éventuel. Mais moi, je pense que le président de la République n'a pas à se mêler de la télévision directement. Parce que d'abord, ça fragilise le ministère de la Culture qui est censé être la tutelle officielle. Alors, c'est bien que... Le président Macron s'occupe. Il reprend tout. Il reprend la francophonie. Il reprend le patrimoine. Maintenant, il s'occupe de télévision. Mais que va faire Françoise Nyssen? Qu'est-ce qui lui reste? C'est quand même des postes importants. Si on dévitalise à ce point le ministère de la Culture, ça va être un secrétariat d'État et on va en payer les conséquences très vite.
Brice-Couturier, je vous vois approuver.
Oui, effectivement, si vous voulez, d'un autre côté, n'oublions pas que c'est l'État qui paye quand même, hein. Donc l'État, c'est l'actionnaire numéro un et le seul de notre audiovisuel public. Le reste, c'est un petit peu de publicité pour France Télévisions.
Mais enfin, l'État, ça n'est pas qu'Emmanuel Macron non plus.
D'accord, mais enfin, comme c'est le président de la République, il est quelque part un petit peu responsable de l'usage des deniers publics. N'oublions pas, il en est comptable.
La ministre aussi.
Mais je suis d'accord avec Fabienne Pascaud. Effectivement, on entend peut-être pas suffisamment la ministre de la Culture dans cette affaire. On aimerait bien savoir ce qu'elle en pense.
Bon, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Sylvain Bourmeau, Aude Lancelin, Brice Couturier et Fabienne Pascaud, qui ne bouge pas de son siège. Enfin, si vous pouvez, allez, vous avez 3 minutes pour faire une petite pause jusqu'à l'arrivée d'Arnaud Laporte pour cette dispute dans laquelle il sera à nouveau question
de politique culturelle d'ici quelques toutes petites minutes.
Dans cette dismoudre, vous voulez dire ?
Dans cette dismoudre, oui, voilà.
On verra notamment s'il est nécessaire que l'État s'occupe de nos distractions, comme dirait Brice Couturier. Ce sera dans 3 minutes. Dans politique, demain à midi ?
Demain, on va parler de la langue de bois et du parler vrai. Est-ce que c'est le même combat ? Ce sera avec la politologue et professeure de littérature, Cécile Alduy.
19h, France Culture, les titres de l'actualité avec Anne Fauquemberg.